Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des entrepreneurs, des initiatives, des parcours de vie. La France bouge, ici c'est simple. On trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec vous aujourd'hui, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler santé au travail en ce début de semaine. Que font les entreprises pour accompagner leurs salariés? Une question encore plus centrale, hein, après plus d'un an de crise sanitaire. Nous serons avec Sébastien Leroy, président de l'association Acomed. Vous allez peut-être découvrir cette association. C'est l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées françaises. Il est en studio avec nous jusqu'à 14h.
À la une, la téléconsultation aussi dans le cadre de la médecine du travail. C'est le pari réussi de la start-up Padoa et on la découvre d'ici quelques minutes.
Et puis l'histoire de la médecine du travail.
Ah,
ce sera notre
saga
du jour vers 13h30. On va apprendre plein de choses.
Énormément. Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire, la CCI, ont retenu la boîte à sport, des containers transformés en espaces sportifs pour les entreprises. C'est très sérieux. On en parle pour le pitch du jour à 13h45.
Et comme d'habitude en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil à une entreprise qui a choisi de faire du flex office, c'est-à-dire plus de bureaux fixes personnalisés, du flex office généralisé. On vous en parle à 13h50.
C'est ça, la France bouge. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et la France bouge dans les entreprises au moment où la campagne de vaccination bat son plein. Comment s'organisent justement les entreprises avec leurs salariés? Comment la santé au travail est-elle revenue au centre des préoccupations? On en parle tous ensemble jusqu'à 14h.
Bonjour Sébastien Leroy.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées françaises. Alors ça vous dit peut-être rien, ça s'appelle l'Acomed. L'Acomed est une association qui existe depuis près de 30 ans. C'est plus d'un million de salariés et une quarantaine d'entreprises. Sébastien Leroy, votre mission, c'est la santé au travail. Alors comment ça va dans les entreprises que vous représentez là en cette sortie de crise sanitaire et de déconfinement, on peut le dire comme ça?
Merci de votre invitation en tout cas, les vastes questions et vastes sujets, santé au travail dans le contexte.
Vous avez 4 heures mais ce n'est pas le baccalauréat, non, en fait on a une heure, on va essayer de tout comprendre.
Voilà, on va essayer de faire simple effectivement et faire un focus hein, sur la crise sanitaire qui a remis la santé au travail un peu au devant, comme on le disait, hein, la Comed aujourd'hui, si on googlise la Comed,
ouais, franchement j'ai googlisé, j'ai rien trouvé, je vous le dis honnêtement.
Voilà, c'est une association qui voilà, regroupe des médecins coordinateurs, donc médecins de santé au travail, hein, médecins du travail, qui participent à s'entraider, à développer des consensus autour de la santé au travail.
Donc vous cherchez, en gros, vous êtes un consortium de médecins du travail et vous vous donnez des petits tips, on peut dire ça comme ça, des conseils pour accompagner au mieux les salariés finalement.
Exactement, en fait, pour développer ce qu'on fait chacun dans nos entreprises, hein, toutes les entreprises sont différentes, mais elles ont quand même un processus commun, c'est d'être responsable de la santé des collaborateurs, et donc on participe à ça et on échange nos idées, nos bonnes pratiques pour les mettre en avant, et l'occasion de cette crise a été là où on se réunissait une fois tous les trimestres, de se réunir quasiment une fois, deux fois par semaine en plein cœur de la crise, alors du premier confinement.
Mais ça, c'est l'aspect urgence, ça a accéléré des choses qui peut-être était un petit peu tranquillement en train de se faire. Là, il y a eu des choses très concrètes qui ont été mises en place, qui étaient peut-être dans les esprits depuis longtemps et qui, de fait, ont été mises en place.
Bah, très concret, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. La téléconsultation, par exemple,
bien sûr.
Ce genre de choses. Dans le très concret, ça a été surtout de s'organiser autour des connaissances pour mettre en place situations saines au travail, hein, des protocoles, comment gérer les urgences en milieu de travail dans le cadre du Covid au départ quand on ne connaissait pas, quand on n'avait même pas le nom de Covid. Donc voilà, ça s'est organisé autour de cette trentaine de médecins, quarantaine de médecins, trentaine d'entreprises.
Alors ça s'est organisé. Là, aujourd'hui, on est dans un retour au présentiel. Hein. Le 100% télétravail n'est plus forcément ce qui est recommandé. Comment ça s'organise et comment vous intervenez en tant que président de cette association et donc en contact avec des médecins du travail ?
Alors, le premier rôle, il est celui de l'entreprise, celui du médecin du travail sur le site. Hein, le présentiel, comme on l'évoquait, il a persisté dans bon nombre d'entreprises, hein, toutes ces entreprises qui ont tourné encore pendant la crise. Et donc, ça a permis d'accompagner ces entreprises. Oui. Et à ce moment-là, c'était plutôt l'idée de comment faire pour ne pas venir en entreprise. Et maintenant, c'est comment on fait pour faire revenir en entreprise. Donc, ces questions-là, on les aborde, on les met en avant et on participe de l'expérience de chacun, que ce soit de l'industrie automobile, aéronautique, la pharmacie, la banque. Avec des expériences très différentes les unes des autres.
Ouais. Et justement, là, en ce moment, c'est un peu le casse-tête parce qu'il faut trouver une solution malgré tout assez rapide et durable, hein, parce que le monde d'avant, on dit que c'est fini. Il n'y aura plus du 100% présentiel, en tout cas dans certaines entreprises. Voilà, comment on arrive à accompagner, à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Un des messages qu'on fait passer hein, en tant que médecin du travail, c'est de dire que c'est le travail qui compte. Hein. On va parler un peu de flex-office, on va parler beaucoup de flex-office dans l'avenir, mais on parle de présentiel, travail hybride. Tout ça, effectivement, c'est important et ça fera partie de la solution à terme. Ce à quoi il faut penser, c'est que ce qui importe, c'est le travail, l'organisation du travail, et donc de d'amener en fait cette nouvelle technologie éventuellement à accompagner le travail.
Alors concrètement, quand vous dites que vous les accompagnez en ce moment, j'imagine que ça dépend des secteurs d'activité. Est-ce que vous avez des exemples? Je sais pas. J'imagine que dans certains métiers, ils n'ont jamais pu faire de télétravail. Dans d'autres, ça a été du 100% télétravail. Comment aujourd'hui, ça s'organise ce casse-tête du retour au présentiel?
Eh bien, on fait la part des choses, effectivement, comme vous l'évoquiez, le 100% télétravail pour certains, ça n'a jamais existé. Ça
alors,
a été
par exemple, pour qui
activité.
Vous pensez à qui quand vous nous parlez
activité pharmaceutique, hein, les produits pharmaceutiques devaient, par exemple, sortir, et il y a même eu une recrudescence de certains médicaments, donc les salariés étaient en poste avec des mesures barrières dès le début.
Donc, rien n'a changé pour eux.
Si, bien sûr, parce que lors du premier confinement, lors de la mise en place des mesures barrières, elles étaient d'ores et déjà mises en place dans les entreprises, alors qu'elles n'étaient même pas envisagées à l'extérieur par le gouvernement. Hein. C'était d'ores et déjà de s'assurer que, quand on n'avait pas la distance physique, il fallait porter des masques, avec toute la complexité d'assurer la disponibilité des masques en entreprise.
Donc ça, c'est par exemple pour le milieu pharmaceutique. J'imagine que, je ne sais pas, dans l'industrie automobile, dans d'autres milieux, c'est différent.
À l'industrie automobile, il n'y avait pas d'urgence à ce que les automobiles sortent. Hein. Donc il y a eu d'abord un arrêt des productions et puis un retour à la production avec les conditions. Et là, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, l'expérience de ceux qui avaient participé auparavant et qui avaient continué à travailler ont permis de mettre en place ces mesures barrières de façon plus rapide, plus sereine, plus pérenne. Ouais. Dans le cadre de l'entreprise.
Et puis prendre en compte les différents métiers au sein de la même entreprise, si on reste dans l'automobile, entre ceux qui seront effectivement dans une usine en train de produire et ceux qui peuvent travailler en télétravail, qu'il n'y ait pas de poids de mesure, ça aussi, ça doit être pris en compte?
Alors aujourd'hui, il y a deux poids de mesure, hein, effectivement. Hein, les salariés en poste
de
avec
fait, voilà,
cette obligation. Et puis, c'est de ce 100% télétravail qu'on a vécu là pendant des mois.
Un retour au présentiel qui s'organise. On va continuer à en parler, Sébastien Leroy, avec vous. Vous êtes le président de l'ACOMED, l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. Et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
Nous sommes depuis 13h avec notre témoin du jour, Sébastien Leroy, président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées françaises. On vient de parler du retour en entreprise, justement du télétravail, de ce qui peut se faire à distance. Et la distance, ça peut aussi concerner très concrètement la santé au travail.
Et oui, la crise sanitaire a accéléré les consultations en médecine du travail. Et certaines entreprises ont choisi de décaler les visites médicales au plus tard à la fin de l'année. Et d'autres, eh bien, elles ont saisi l'opportunité numérique. Il y en a. Alors, comment vivre le télétravail total? Quels en sont les bénéfices? Les salariés sont-ils mieux suivis? Bonjour Cédric Matorel.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour.
Vous êtes le président et le cofondateur de Padoa. Padoa existe depuis 2016. Et vous n'attendez pas que le salarié aille mal. Au contraire, vous êtes parti du constat que la santé au travail, eh bien, c'est avant tout de la prévention. Et c'est comme ça que vous avez fait intervenir le numérique dans la santé au travail. Racontez-nous votre entreprise et d'où vous est venue cette idée.
Eh bien, alors effectivement, on a créé l'entreprise en 2016 et on est parti d'un constat qui était que la santé au travail étant avant tout une santé préventive, il fallait, pour que ça marche le mieux possible, que les premiers concernés, donc les salariés et les employeurs, soient des acteurs du processus. Et donc on s'est dit, pour faire ça, le mieux, c'est d'apporter un outil technologique qui permette d'engager justement ces acteurs. Et donc, on a développé une plateforme numérique pour la santé au travail, qui est bien sûr l'outil du quotidien des experts qui travaillent dans les
donc
services.
Donc des médecins du travail.
Voilà, des médecins du travail. Mais qui est aussi un ensemble d'applications et d'outils numériques qui sont à disposition du salarié et de l'employeur pour qu'ils collaborent avec leurs experts, avec les médecins du travail, pour mettre en place des politiques de prévention.
Mais alors, on y trouve quoi sur ces plateformes de prévention? Moi, en tant que salarié, qu'est-ce que je peux partager ou consulter avec mon médecin du travail?
Alors, en tant que salarié, vous allez vous allez faire des autodiagnostics de santé, donc vous allez remplir des questionnaires, vous allez réaliser un certain nombre de tests médicaux avec des objets connectés. Et puis, donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, contenu, qui va faire que votre santé au travail ne va pas se résumer à une visite dans un service de santé au travail avec le médecin du travail une fois tous les X mois ou X années, mais ça va être quelque chose beaucoup plus en continu, où vous aurez finalement votre médecin du travail dans la poche, dans votre smartphone.
Et que je pourrais consulter dès que j'ai un petit souci.
Par exemple.
Mais pourquoi j'utiliserais le médecin du travail et pas un médecin, entre guillemets, mon médecin généraliste? Quelle est la différence, quoi? Que va-t-il m'apporter de plus?
Alors, le médecin du travail est là pour vous accompagner dans vos problématiques de santé liées à votre travail.
Donc, sur des troubles musculo-squelettiques, par exemple, par rapport à des postures?
Alors, ça peut être effectivement des troubles musculo-squelettiques, ça peut être, on parle beaucoup aussi des risques psychosociaux, il peut y avoir des manipulations de produits dangereux dans votre activité. Donc, sur tous ces sujets, le médecin du travail, c'est le mieux placé, parce que non seulement il vous suit en tant que personne, il suit votre état de santé individuel, mais en parallèle, il connaît l'activité de votre entreprise, et donc il va être capable de vous accompagner et d'adapter finalement votre environnement de travail, et les mécanismes de prévention à votre situation personnelle.
Cédric Matorel, sur le plan technologique, qu'est-ce qui a évolué là ces derniers mois? La consultation à distance, c'est pas juste on se parle derrière un écran. Voilà, qu'est-ce qui a été mis en place, peut-être accéléré par la crise, comme pas mal de choses concrètement là, ça a évolué?
Alors effectivement, la téléconsultation, c'est quelque chose qui a énormément accéléré pendant la crise. On l'a vu en mars 2020, il y avait quelques expérimentations, mais ça restait relativement anecdotique. Là, on est passé dans un mode de fonctionnement où la téléconsultation est devenue la norme pendant quelques mois.
Ouais.
Alors la téléconsultation, c'est plus que juste faire une visio, ouais. on discute gentiment. Une téléconsultation, c'est intégré dans un processus médical. Donc typiquement dans Padoa, la téléconsultation, ouais, permet aux médecins d'avoir un échange qui est totalement sécurisé avec le salarié, lui permet d'avoir en même temps cet échange avec le salarié puis l'accès à son dossier médical.
Ouais.
Et tout ça, c'est parfaitement intégré pour que, finalement, on lui simplifie la vie pour qu'il puisse se focaliser sur ce qui est important, à savoir l'accompagnement du salarié.
Et les données,
pas la manipulation d'outils multiples.
Ouais, et ça permet un suivi, du coup, personnalisé. C'est pas un rendez-vous comme ça et puis il y a aussi cet intérêt d'avoir des données, d'avoir un suivi un petit peu au quotidien, comme vous l'évoquez aussi.
Tout à fait. Ça, c'est une des grosses dimensions, effectivement, qui nous intéresse, c'est la donnée. Parce que la santé, ouais, au travail, c'est un carrefour de données qui est prodigieux. Il y a beaucoup de données qui sont des données sensibles. Il faut savoir,
ah oui,
les collecter, les analyser, les restituer à l'expert quand il en a besoin. Et tout ça en respectant toutes les règles de confidentialité. Donc la donnée, c'est très important. On l'a vu pendant la crise Covid. Par exemple, ça a permis aux services de santé au travail d'identifier immédiatement dans leur base l'ensemble des salariés vulnérables,
ouais,
et de pouvoir ensuite les contacter, leur proposer des programmes d'accompagnement spécifiques.
Mais ouais, comment vous détectez un souci de santé en visio?
Là, concrètement, pour justement les gens qui toussaient, qui avaient des symptômes, qui c'était compliqué.
Comment vous y parvenez?
Alors, d'abord, il n'y a pas que la visio. La visio, c'est un outil complémentaire.
Non, mais moi, nous, on évoque la visio, ouais, par rapport à la crise sanitaire que nous venons de traverser.
Parce que c'est une
et qui va devenir un
déjà
outil, j'imagine, complémentaire au médecin du travail. Comment on arrive à détecter? C'est un premier rendez-vous et ensuite on se voit de visu. Ça permet de faire gagner du temps au médecin du travail. Quel est l'apport de la visio dans le cadre de la santé au travail?
L'apport, c'est beaucoup d'agilité, puisqu'effectivement, vous n'avez pas à demander à un salarié de faire 35 minutes, 45 minutes de trajet pour aller à sa consultation. Après, il y a toute une partie d'une consultation médicale, et puis M. Laurent parlera mieux que moi, qui est en fait de l'entretien singulier. Et donc cette partie-là, on peut tout à fait la faire en visio. Et puis après, effectivement, il y a des choses complémentaires, il y a des examens cliniques et ainsi de suite. La visio ne va pas remplacer...
On est plus dans le récit finalement avec la visio, c'est-à-dire que le salarié va dire comment il fait son métier, ce qu'il manipule, sa position. Et là, à ce moment-là, vous allez peut-être faire des diagnostics et à partir de là, se mettra en place un complément, un rendez-vous, j'imagine.
Exactement. En fait, il y a toute une partie de l'information qui peut passer à travers cet entretien singulier. Et puis après, lorsque c'est nécessaire, effectivement, il y a des actions complémentaires qui sont demandées. Alors ça peut être effectivement des examens cliniques, mais dans le cadre de la santé au travail, ça peut être aussi des études de poste avec des mesures de métrologie qui sont faites dans l'entreprise pour s'assurer qu'effectivement les conditions de travail sont bien maîtrisées et sont adaptées à l'état de santé du salarié considéré.
Et est-ce qu'il y a des types de métiers nouveaux où ça a pu s'adapter, là encore une fois, avec la crise des,
Oui, comme les jardiniers, par exemple. Ouais, c'est vrai, des métiers qui n'ont pas forcément...
Pas forcément lié à la crise du Covid.
Oui, là, c'est plus une évolution.
Effectivement, il y a une tendance aussi qui est très importante, c'est de dire que la santé au travail, aujourd'hui, elle concerne, si on prend le secteur privé, elle concerne essentiellement les salariés des entreprises. Aujourd'hui, il y a d'autres populations, les indépendants,
oui, voilà.
Par exemple les fameux salariés des plateformes,
bien sûr, voilà.
Les salariés du particulier employeur, qui sont des gens pour qui ont un moindre accès à la santé au travail. Et effectivement, là aussi, la technologie permet de mettre en place des choses beaucoup plus souples. Nous, par exemple, on a mis en place un pilote aujourd'hui avec la Fédération du particulier employeur pour suivre justement ces femmes de ménage, ces jardiniers, etc. Ouais. Et leur apporter finalement la même qualité de suivi que celui qu'on va offrir.
Ces populations qui n'ont pas forcément accès à cette santé au travail. Notre témoin du jour, Sébastien Leroy, vous êtes le président de la COMED, l'association des médecins coordinateurs des entreprises privées. L'intervention du numérique comme ça, des consultations en visio, dans le cadre de la santé au travail, est-ce que c'est quelque chose que vous observez de plus en plus, qui entre dans nos modes de vie?
C'est entré, ça y est.
Ça y est, c'est grâce à la crise.
Alors,
on peut voir des côtés positifs à cette crise,
clairement,
quand même.
Il y a eu comme dans chaque crise d'ailleurs, il y a eu un saut technologique. D'abord parce qu'il y a eu un besoin absolu. Les salariés, on en parlait tout à l'heure, étaient 100% chez eux et il a fallu continuer à les suivre, à leur donner accès à la médecine du travail, à leur donner accès à leur médecin du travail. Et on évoquait tout à l'heure le colloque singulier de la médecine du travail. C'est vrai dans toutes les spécialités médicales, 80%, c'est l'interrogatoire. C'est la discussion entre le médecin et le collaborateur ou le salarié en l'occurrence et le patient en médecine. Et donc à ce moment-là, si on détecte quelque chose, effectivement, il faudra passer par l'examen clinique, les examens complémentaires, la visite de poste, ce genre de choses. Mais ces 80%, on peut les faire grâce à la visio.
Donc vous utilisez, vous, ces solutions numériques, vos entreprises les utilisent.
C'est en place.
Quelle est la frontière, où se situe la frontière entre la santé au travail et la santé tout court?
Moi, c'est une frontière que j'ai jamais eue. On a cette frontière aujourd'hui parce qu'on a des ministres de tutelle. La santé d'un côté, la médecine du travail est aujourd'hui à une tutelle dans le ministère du Travail.
Ouais.
Et on voit bien que là, avec cette crise, que ces frontières ont été un peu floutées. Et c'est tant mieux. Je prône la santé globale en entreprise. Même s'il y a une spécificité de santé au travail, les médecins du travail et les professionnels de santé sont donc des médecins en l'occurrence, des infirmières. Et donc font passer la santé en premier
lieu. Avant tout,
et
c'est une santé globale. Cédric Matorel, vous suivez combien de salariés là en ce moment avec Padoa ?
1 500 000.
1 500 000 salariés. Merci d'être venu dans La France Bouge, Cédric Matorel. Je rappelle
Merci
que
beaucoup.
Vous êtes le président et le cofondateur de Padoa.
Sébastien Leroy, président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
La France bouge avec Elisabeth, nous sommes ravis d'être avec vous. Sébastien Leroy, président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. On parle santé au travail.
Et oui, il y a énormément de choses à dire sur la santé au travail. Alors chaque jour dans La France bouge, Sébastien Leroy, on découvre une marque, un endroit, un produit qui font la fierté de notre pays ou d'un métier, comme aujourd'hui. On va découvrir l'histoire de la médecine du travail. Elle est née en France, officiellement en 1946, mais la médecine médecine du travail, elle est très différente d'un pays à un autre. Par exemple, dans les pays nordiques, ce ne sont pas des médecins, mais ce sont des ingénieurs qui s'occupent de la santé des travailleurs.
Oui, par exemple, c'est seulement depuis 2016 que la visite médicale a été instaurée tous les ans.
Tous les ans en entreprise.
Voilà.
Ah oui,
donc on va découvrir ça. Est-ce que c'est une spécificité française? Comment est-ce qu'elle est née? Elle a évolué au fil du temps? Eh bien, les réponses, c'est dans la saga du jour de La France Bouge, racontée par Charlotte Barrican.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
On ne le sait pas toujours, mais la santé des travailleurs est une grande préoccupation depuis plus de 2000 ans. Déjà grâce aux papyrus de l'Égypte antique, on sait que les ouvriers des pyramides étaient constamment surveillés par des médecins. Pareil en Grèce et dans la Rome antique. Et saviez-vous que dès la fin du 19e siècle, Georges Clemenceau se battait pour que le saturnisme soit reconnu comme une maladie professionnelle. Mais le véritable tournant pour la médecine du travail arrive un peu plus tard, à la Libération. Bernard Salengro, médecin du travail.
Concrètement, c'est rentré dans les habitudes, dans les entreprises, entre les deux guerres, entre 14 et 40. Et à la Libération, en 46, il y a un accord national complet qui dit « c'est fini la médecine du travail des patrons, on invente une médecine du travail qui est là pour protéger les salariés ». C'est un tournant important. Et à partier de ce moment-là, la médecine du travail est faite pour éviter l'altération de la santé au travail. Petit à petit, ça s'est monté, mais les médecins du travail de l'époque étaient peu formés et les employeurs de l'époque n'avaient pas du tout envie que les médecins du travail aient à mettre leur nez dans l'atelier.
Le problème, c'est que si le médecin du travail n'est pas sur le terrain, il ne peut pas mener à bien sa mission. En 1979, le gouvernement en prend conscience et encourage les médecins du travail à aller au plus près des salariés, dans les ateliers, vérifier l'utilisation des machines ou dans les bureaux, surveiller la posture des salariés. Et même 40 ans après, surtout depuis la crise du Covid, les médecins du travail ont un rôle capital.
Alors le Covid montre une chose très importante dans les entreprises, c'est l'importance, l'impact, l'influence des risques psychosociaux. Parce que le Covid a généré, le fait qu'on n'est plus en groupe, qu'on est à distance, qu'on est dans une position un peu figée en télétravail, etc. Donc ça a eu des impacts à la fois psychiques, physiques, importants. Et les médecins du travail se sont trouvés un petit peu interpellés.
Dépression, surcharge mentale, burn-out, protocole sanitaire ou encore organisation de campagnes de vaccination en entreprise, les médecins du travail sont très sollicités depuis le début de la crise. À noter que tout de même en France, nous sommes en avance sur ces sujets-là. Nos voisins européens, eux, comme par exemple les Anglais ou les Allemands, n'ont pas une médecine du travail très développée.
La saga du jour signée aujourd'hui Charlotte Barrican. On est toujours avec vous Sébastien Leroy. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. Justement, ce rôle du médecin du travail, comment est-ce qu'il a évolué? Et très concrètement, là, quel est-il? À quoi il sert dans notre quotidien? On a parlé de la crise, mais voilà, post-crise, avant-crise.
Souvent, on a l'impression qu'on va voir le médecin du travail quand vraiment la coupe est pleine.
Oui, c'est comme on va voir le médecin quand on a mal à la gorge, en fait. Hein, alors que la médecine du travail, c'est de la médecine de prévention. Hein, et l'idée, c'est d'aller le voir quand ça va bien, éventuellement. Ouais. Et donc ça, c'est la visite périodique qui a tendance à changer. Hein, on l'a vu au fil du temps. La visite périodique s'espace pour laisser du temps au médecin du travail de faire cette action de prévention. Et donc, l'idée est de laisser la place à la visite à la demande du salarié. Hein, effectivement, avant que ce soit trop tard, de prendre le pouls d'une situation en milieu de travail qui pose problème. On parlait des TMS tout à l'heure.
Les troubles musculo-squelettiques. Mm-hmm.
Et avant que ce soit une maladie professionnelle, de pouvoir prendre la vie du médecin.
Oui, mais parfois, le salarié ne réalise pas qu'il est en train d'aller de plus en plus mal. Donc, à quel moment est-ce que le médecin du travail a des capteurs, entre guillemets, dans l'entreprise pour pouvoir détecter un futur problème?
Alors, ces capteurs, c'est les autres collaborateurs de l'entreprise, c'est le manager, c'est l'entreprise en elle-même qui doit prendre en compte la santé des collaborateurs et donc inculquer cette politique de santé au travail, hein, et se servir du médecin du travail comme d'un conseiller, hein, c'est une de ses missions, de l'employeur, des collaborateurs, pour promouvoir la santé et faire de la prévention des accidents de travail, des maladies professionnelles, ouais. Et autres pathologies.
Une santé donc de prévention, c'est ce que vous nous dites Sébastien Leroy, vous êtes le président de l'ACOMED, c'est l'association des médecins responsables des grandes entreprises privées françaises, et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
La santé au travail au programme de la France Bouge aujourd'hui avec vous, Sébastien Leroy, président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. Un sujet qu'on n'a pas encore évoqué avec vous, c'est pour justement voilà, rassurer ce retour au travail présentiel qui a été progressif et qui l'est de plus en plus. Ça passe aussi par la vaccination. Comment ça s'est mis en place? Racontez-nous un petit peu. Forcément, là aussi, c'était une situation inédite.
Situation inédite et mise en place inédite. Hein. On s'est basé sur les travaux qui avaient déjà été faits lors de la première crise en 2009 avec le H1N1 pour pouvoir promouvoir la vaccination d'entreprise un peu plus rapidement qu'elle n'avait été mise en place à l'époque. Et donc c'est dès fin mars que la vaccination a pu être mise en place avec un certain type de vaccin. Parce que vous le savez,
c'était l'AstraZeneca fin mars.
L'AstraZeneca.
Les autres, il fallait des congélateurs.
Les conserver, à moins 70 degrés, c'était très compliqué. Et puis finalement, l'évolution a fait, ça a évolué très vite, a permis de les distribuer de la même façon que les vaccins à adénovirus. Donc on pouvait les conserver entre plus 2, plus 8 et donc les rendre disponibles en ville. Et pour la première fois, les médecins du travail ont été associés à la médecine de ville dans le cadre des DGS urgents qui sont les messages diffusés par le ministère de la Santé.
Associés à la médecine de ville pour la prévention, mais est-ce que ça signifie que vous avez eu rapidement des doses à distribuer aux entreprises que vous représentez, parce qu'il y a un stock de 100 000 doses qui devait être allouées aux médecins pour les vacciner dès le 14 juin dans les entreprises. Est-ce que ça a bien eu lieu?
Alors oui, ça a eu lieu. On a participé avec Acomed justement à un pilote qui a montré l'efficacité de la mise en place de la vaccination avec les vaccins ARN en entreprise par ces services autonomes qui ont pu mettre en place dans les services avec les médecins et les infirmières des services de santé au travail la vaccination pour les employés.
Est-ce que ça signifie que ça concernait des métiers particulièrement à risque ?
Pas particulièrement. Hein. On a suivi les recommandations du gouvernement. Hein. Cette campagne de vaccination, c'est pas une vaccination d'entreprise, c'est vraiment une campagne nationale. Et les médecins du travail participent à l'effort national de la vaccination sur une population, on va dire, captive, qui sont les salariés en entreprise, avec un accès simple et facile à leur médecine du travail. Ils connaissent leur service, ils savent où c'est, ils sont sur place. Et donc, ça a permis d'ouvrir cette vaccination à un plus grand nombre, à un moment donné où les centres de vaccination étaient parfois un peu
saturés.
Et comment vous avez fait au départ avec assez peu de doses disponibles? Est-ce que c'est des entreprises qui vous demandaient comment faire? Est-ce que vous contactiez des entreprises au sein de l'association en disant celle-là, on aura forcément besoin pour tel ou tel métier? Comment ça s'est mis en place quand il n'y avait pas cet accès assez large?
On s'est mis à disposition. Hein. C'est pas la Comed qui était pilote. D'accord. On s'est mis à disposition pour pouvoir diffuser l'information.
Répondre à une demande.
Et c'est vraiment la task force vaccination du gouvernement qui a mis à disposition les doses. Il n'y a pas eu de passe-droit, on va dire. Hein. On a vraiment participé à cet effort national et par ce pilote, ça a été une mise à disposition dans certaines grandes entreprises et dans les services inter-entreprises. Il y avait deux branches de pilotes. On a pu mettre à disposition et ça a permis d'ouvrir la vaccination au plus grand nombre à partir du 14 juin. Les 100 000 doses que vous évoquiez, Elisabeth Assayag.
Donc ça, c'était le 14 juin. Et là, ça continue? Vous continuez à organiser des espèces de mini-vaccinodromes au sein des entreprises?
Alors, on continue à vacciner, d'abord parce que ce sont, à part le Janssen, des vaccinations à deux doses. Hein, donc, on va rentrer dans la phase des secondes doses d'AstraZeneca, des secondes doses de vaccins à ARN prochainement. Donc, la vaccination continue.
Donc, assez de doses pour vacciner au sein des entreprises. Ça n'arrive plus au compte-gouttes, là?
Alors, ça arrive moins au compte-gouttes. Les 100 000 doses qui étaient prévues là arrivent. Donc, on a la possibilité en entreprise d'avoir assez de doses pour pouvoir provisionner, on va dire, nos vacations de vaccination. C'est ça le plus compliqué. Hein. Contrairement à un vaccinodrome, en service de santé au travail, on a besoin de pouvoir prévoir, donner des rendez-vous et pouvoir assurer les doses pour éviter les pertes de doses. Alors qu'en vaccinodrome, le flux arrive. De toute façon, les gens font la queue à l'extérieur.
Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérimentation en temps réel? Vous avez pu cibler les plus vulnérables rapidement ou est-ce que c'est aussi compliqué de se déclarer auprès de son employeur? Est-ce qu'il y a eu des complications aussi de cet ordre? Alors, là encore, nouveau.
L'avantage des services de santé au travail, hein, on a entendu tout à l'heure Cédric Matorel parler des data. L'avantage en service autonome et les services qu'on représente au sein de la Comed, c'est une proximité des médecins du travail, des équipes de santé au travail et donc la connaissance de ces personnes. Et donc, la liste et l'information qui a été donnée à tous les collaborateurs, hein, mais a permis de pouvoir accompagner de façon plus spécifique des personnels qui sont suivis plus régulièrement parce que plus fragiles.
Et ben ça se passe bien en France, hein, c'est ce que l'on comprend avec vous Sébastien Leroy. Hein, les campagnes de vaccination au sein des entreprises se déroulent merveilleusement bien, on peut le résumer comme ça. Hein. Vous êtes le président de l'association Acomed, vous êtes notre témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleureau.
Et c'est parti pour les trophées européens de la France Bouge. Chaque jour, il ou elle tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et forcément exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui. Nous sommes avec Sébastien Leroy, président de l'Association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises. Et comme d'habitude à cette heure-ci, il y aura évidemment l'indispensable Nathalie Carré de la CCI.
Et encore une bonne idée aujourd'hui dans la France Bouge. Bonjour Jules Chevalet.
Bonjour, merci de m'avoir invité pour présenter la boîte à sport.
Et bien voilà, vous êtes déjà présenté, vous avez 23 ans, vous êtes niçois, vous venez de Nice là ?
Tout à fait, oui, de Nice. Oui.
Et bien donc vous êtes le fondateur de la boîte à sport, ce sont des containers transformés en espaces sportifs pour les entreprises. Ils sont entièrement équipés, ils disposent d'une surface qui va de 15 à 90 mètres carrés. Les adhérents bénéficient d'un accès en continu, sur réservation, des séances de sport personnalisées. Je suis sûre que ça vous plairait ça Aurélien.
Bah oui, hein, j'ai envie d'en savoir plus.
Mais voilà, donc, et vous vous, Jules, vous adorez le sport. Vous avez travaillé notamment dans la marque Salomon et dans la nutrition sportive aussi. Alors, votre idée est née d'un besoin. Vous étiez dans pas mal d'entreprises. Vous avez remarqué qu'il y avait un réel manque. Bon, allez, j'arrête de tout raconter. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Merci. Je suis passionné de sport, d'humain et de performance. Effectivement, je me suis aperçu que concilier tout ça en entreprise était compliqué, même quand on est convaincu. Aujourd'hui, on le sait tous, le sport, c'est bon pour notre santé physique et mentale. Mais c'est aussi bon pour l'entreprise, car elle permet de réduire les maladies professionnelles, mais aussi augmenter les performances de l'entreprise et le bien-être des salariés. Aujourd'hui, moins de 10% des entreprises encouragent leurs salariés à pratiquer une activité physique et sportive au sein même de l'entreprise. Alors, les principales raisons sont le manque de moyens financiers, le manque d'espace disponible et la complexité. Donc, la boîte à sport est la solution, avec un service 360, sur mesure, clé en main et en 3 mois. Le concept, comme vous l'avez dit, nous proposons des containers transformés en espaces sportifs avec des équipements adaptés aux besoins des entreprises et de ses collaborateurs. Ces espaces sont proposés à la location ou à l'achat. Avec la boîte à sport, les entreprises permettent à leurs collaborateurs d'avoir vraiment un gros esprit de cohésion.
Ouais, c'est vachement important ça dans les entreprises, l'esprit d'équipe et l'esprit de cohésion.
On est d'accord. Alors non Jules, vous l'avez évoqué, il y a, sans préciser le prix, je prends ma casquette d'Emmanuel Dutheil qui est d'habitude là.
Oui, il adore ça, on l'embrasse d'ailleurs.
Aujourd'hui, on l'embrasse et c'est toujours ce côté un peu prix. Alors combien ça coûte au salarié ? Peut-être pas forcément grand-chose. Là en l'occurrence, c'est combien ça coûte à l'entreprise ?
C'est un contrat que vous nouez avec l'entreprise.
Alors il y a une partie location, une partie achat effectivement. Pour la partie à l'achat, on va parler pour un container de 30 mètres carrés, livré, équipé, installé, il faut compter 55 000 euros.
D'accord.
Alors, il faut mettre 55 000 euros pour le container, d'accord ? On peut se dire c'est beaucoup, sauf que pour une construction traditionnelle, c'est 2 000 euros du mètre carré hors équipement. Mmh. Mais aussi, la construction traditionnelle est un délai, environ 8 mois, contre 3 mois pour nous. Sachant que le container arrive sur site une fois qu'il est transformé, équipé, et l'installation dure une seule journée.
Il n'y a pas de fenêtre ?
Si, tout à fait.
Il y a des fenêtres, donc on peut aérer. C'est important quand on fait du sport.
C'est obligatoire.
Hyper important.
Quand on s'imagine les 30 mètres carrés, ça peut être pour une seule personne, deux personnes, entre collègues, on réserve, on se connaît bien. D'habitude, on va courir ensemble. On se dit là, pourquoi pas faire une heure de sport ensemble. 30 mètres carrés, c'est faisable.
Disons qu'en période hors Covid, on peut être 5 dans un espace de 30 mètres carrés.
D'accord.
Je vais vous présenter une femme qui a étudié attentivement votre dossier. C'est Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Jules, bonjour Aurélien. Bonjour.
Ça y est, vous avez fait votre sport ?
Ah ben j'aimerais bien.
Ouais, nous aussi on aimerait bien.
J'aimerais bien. C'est ça.
Nathalie, l'amener chez moi là en ce moment la boîte à sport.
Le conteneur, ouais, ça serait pas mal.
Allez,
on va commencer d'abord par les points positifs. Quels sont les points positifs de la boîte à sport, Nathalie Carré ?
Eh ben, en fait, c'est une idée simple, mais assez fondamentale, parce que c'est ce qu'on vient de dire. Amener le sport auprès des Français qui travaillent. Voilà. Plus d'excuses et que des avantages pour l'entreprise. Comme pour le salarié, il y a même des études qui disent que c'est un outil de fidélisation pour plus de 60%
de fidélisation à l'entreprise?
À l'entreprise, oui, le fait d'avoir accès au sport.
C'est vrai.
Donc, c'est un vrai outil, effectivement, de politique sociale et salariale. le côté sur mesure de votre projet, des salles de 15 à 90 mètres carrés, la possibilité d'ajouter du coaching et le choix des appareils au libre arbitre de l'entreprise. Puis vous faites un accompagnement des dirigeants et des RH pour notamment enquêter sur les besoins des salariés et les aider dans les différentes démarches administratives.
Tout à fait.
Alors ça, c'est côté positif.
Alors, je crois que bon, ça, c'est déjà pas mal, hein, oui. Tout ce qu'elle vous a donné. Donc, il y a des études qui montrent que le sport, ça fait du bien aux salariés, ça permet de fidéliser. Quels sont les points améliorés? J'aime pas dire les points négatifs. Quels sont les points améliorés, Nathalie, pour la boîte à sport?
Alors, en fait, vous avez un côté entreprise et un côté salarié. On va commencer par le côté entreprise. Vous démarrez. Alors, c'est normal, mais il faut donner envie. Il faut rassurer les dirigeants et les RH. Donc, il faut apporter plus de contenu. Apporter d'abord des réponses financières. On l'a évoqué tout à l'heure, en créant des cas d'usage. Vous prenez un cas fictif, une entreprise X, 10 salariés, une boîte à sport de 40 mètres carrés avec tel et tel appareil, une installation sur le parking, ça fait combien à l'achat, combien par mois, pour que les dirigeants se rendent compte du projet. Ensuite, donner plus de détails sur la boîte et son fonctionnement. Elisabeth et Aurélien, vous vous en posez des questions. C'est climatisé ou pas? Quel type de sécurité? Comment on gère l'accès le week-end et le soir? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce qu'il y a un vestiaire? De quelle marque sont les appareils? Est-ce qu'il est possible d'avoir une salle pour les cours collectifs? Comment ça se passe, le coaching? Qui le fait? Est-ce qu'on peut avoir du coaching collectif? Qui fait le ménage? Bref.
Des détails. Oui. Nathalie vous dit qu'il faut donner des détails, des précisions pour nous donner envie d'aller dans votre boîte à sport.
Et pour que le dirigeant il projette aussi, c'est parce que ça ne doit pas désorganiser l'entreprise. Il y a aussi des sujets juridiques et administratifs. Quelles sont les démarches à faire? Où est-ce qu'on installe la boîte? Est-ce qu'on peut mettre ça dans un sous-sol? Est-ce qu'il faut prendre une assurance spécifique pour ses collaborateurs? Qu'est-ce qui se passe si un collaborateur amène un ami de l'extérieur et que celui-ci se blesse? Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Vous voyez, ça rassure l'entreprise. Et puis côté RH, est-ce que l'entreprise doit faire signer une charte, par exemple, à ses collaborateurs qui s'inscrivent? Est-ce qu'il faut un planning pour éviter les embouteillages? Est-ce qu'il faut une plus grande flexibilité pour que les salariés puissent accéder à la salle aux heures qui leur conviennent? Bref, vous apportez une solution, mais il ne faudrait pas créer un problème d'organisation,
au
notamment.
Même, au sein même de l'entreprise. Alors, que pouvez-vous lui répondre à Nathalie pour la rassurer, Jules Chevalier?
Eh bien, disons déjà, nous allons parler des par rapport aux séances sportives. L'espace sportif est exclusivement réservé aux salariés d'entreprise. Effectivement, pour un problème, enfin pour des raisons de responsabilité, ces espaces sont réservés vraiment aux salariés. Par rapport au, bien sûr, vous en avez parlé, par rapport aux climatisations, tout ça. Bien sûr, nos espaces sont climatisés, échauffés et aérés, pardon, en fonction des normes en vigueur, tout à fait. Par rapport aux espaces sportifs, ils sont gérés par une application, donc pour réserver les séances de sport, et la salle de sport est fermée par une serrure à code qui permet vraiment de contrôler l'accès uniquement aux salariés.
Notre grand témoin, Sébastien Leroy, le pitch n'a pas toujours un rapport avec le thème principal de l'émission, mais là, clairement, faire du sport, la santé au travail, il y a un vrai lien, c'est quelque chose à développer.
C'est quelque chose qu'on promeut, hein. Je vous parlais des missions de la santé au travail, la promotion de la santé en fait partie. Les médecins peuvent prescrire du sport depuis peu, et pas que les médecins du travail d'ailleurs, hein, mais les médecins du travail aussi, et donc ça fait partie de ces missions. Et c'est des choses qu'on gère dans ces grandes entreprises. En général, il y a la place d'avoir une salle de sport.
Est-ce que vous conseilleriez une boîte à sport, justement?
Alors, sur certains petits sites, oui, très bien. Avec toutes les questions qu'on vient d'entendre. La gestion des accidents de travail, par exemple, c'est un vrai sujet qui inquiète.
L'accident du travail dans le cadre
du sport. C'est une organisation, c'est gérable. Il y a plein de salles de sport qui sont internes aux entreprises, c'est possible. Là, on imagine la localisation, la difficulté. On voit la cible, c'est plutôt des petites entreprises qui sont soit un étage dans un immeuble où se situe la boîte à sport. Donc ça, ce serait des cas d'usage qui seraient intéressants d'avoir à disposition pour pouvoir intéresser les entreprises et aussi la mise à disposition, la mutualisation. Hein, je représente les services au travail autonome, mais il y a des services inter-entreprises pour justement ces petites entreprises qui mutualisent en fait l'activité de santé au travail. On imagine que l'activité de sportive pourrait être mutualisée grâce à la boîte à sport.
Donc vous, Sébastien Leroy, vous validez, vous recommandez la boîte à sport?
Je recommande la boîte à sport.
Bah, tant mieux. Tant mieux. Et c'est en tout cas, on vous souhaite bonne chance, Jules Chevalet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la boîte à sport. Donnez-nous de vos nouvelles. Vous avez déjà des contrats là avec des entreprises. Ça y est, vous les avez installées?
Non, pas encore. J'ai des entreprises qui sont intéressées. Donc là,
c'est en train de se faire.
Alors,
c'est
en train de se faire. Et l'émission, il y aura plein de choses.
Bon, on vous le souhaite.
Je mise sur la rentrée de septembre.
Un dernier petit conseil quand même sur le sujet, c'est de pouvoir donner accès à d'autres boîtes à sport, des plus grandes boîtes à sport qui seraient données accès, puisque le collaborateur n'a pas toujours envie de faire du sport près de son lieu de travail, mais plutôt près de chez lui.
C'est une très très bonne idée à retenir. Merci. Merci à vous Jules Chevalet.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve demain évidemment. Et si vous aussi, eh bien, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou patron du jour, eh bien, c'est très simple, vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance, l'opportunité de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Notre témoin du jour, Sébastien Leroy, vous restez encore avec nous quelques minutes?
Bien sûr.
Allez, c'est parti, suite et fin de votre émission.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Aurélien Fleurot.
Dernière partie de votre émission, Sébastien Leroy avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises privées et françaises.
La Comed, donc, et notre monde se transforme, nos entreprises aussi. Alors depuis un an et demi, le son bureau fixe se développe de plus en plus dans nos entreprises, comme chez vous, Livia De Vial, bonjour.
Bonjour.
Êtes la DRH, la directrice des ressources humaines de Colonize. C'est une entreprise qui cherche, c'est ce que vous dites, à réinventer le logement de demain. Une sorte de coworking pour le logement. Vous existez depuis 2017. Vous êtes située à Paris, mais bientôt en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. 70 collaborateurs répartis en Europe. Et pourquoi vous êtes là en direct dans la France bouge? Parce que la crise est passée chez vous, notamment avec le confinement. Et donc, il a fallu que tout le monde se mette au bureau flexible, au fameux flex office, et vous avez décidé de poursuivre. Alors ça consiste en quoi concrètement pour vos salariés?
Alors aujourd'hui, on a laissé la possibilité aux collaborateurs de venir travailler dans nos bureaux au Canal Saint-Martin ou de travailler
Paris,
chez eux.
Mmh.
Exactement. Et donc aujourd'hui, chaque équipe peut s'organiser un peu comme il le souhaite, en fonction des priorités, en fonction de aussi des projets sur lesquels ils travaillent. Donc on a vraiment laissé beaucoup de flexibilité à chacun dans le cadre de son organisation de travail quotidienne.
Et est-ce que ça permet de bien organiser le travail? Parce que lui, au quotidien, il peut bien s'organiser, mais par rapport aux contraintes de l'entreprise, est-ce que tout le monde vient le lundi? Est-ce que tout le monde ne vient pas le vendredi? Comment ça s'organise?
Alors en fait, on essaie aujourd'hui de mettre en place des roulements afin de permettre à chaque équipe de pouvoir avoir des jours fixes pendant lesquels chaque équipe peut se rassembler. Et c'est aussi là-dessus qu'on réfléchit à nos prochains bureaux, puisqu'on va bientôt déménager. Donc l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse s'organiser en fonction des priorités aussi business, afin que nos clients derrière aussi puissent être satisfaits par rapport à ce qu'on leur apporte comme service.
Alors on a été très bavard, on va devoir conclure assez vite. Et peut-être un petit mot avec Sébastien Leroy, cette hybridation, ce flex office, ça aussi ça fait partie de ce que vous observez, ce que vous accompagnez?
Oui, tout à fait, je l'évoquais en début d'émission et je l'ai entendu de la part de Madame De Vial, c'est le travail qui doit être au centre, le télétravail, ça vient
le point de départ et on
accompagner
s'adapte.
La qualité de vie au travail, mais le point de départ c'est bien le travail et l'organisation du travail.
Donc on va aller vers un travail hybride dans les prochaines années. J'imagine.
C'est sûr.
Travail hybride, donc un peu à la maison, un peu en présentiel. On aura l'occasion d'en reparler dans La France bouge, évidemment, parce que nous, on regarde le monde qui change. On vous le raconte chaque jour. Merci à vous, Sébastien Leroy.
Merci à vous.
Le président de l'ACOMED, l'association des médecins coordinateurs des grandes entreprises françaises. Et Aurélien, nous, on se dit à demain, en direct, sur Europe 1. Demain, on va parler de nos départs en vacances, mais...
En bus. Blablabus, notamment, longue distance.
Allez, avec Blablabus. À demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.